C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, épisode 143 du lundi 18 mai 2026. Au programme de cette émission, un dernier regard international pour cette saison avec nos correspondants Christophe Gérard en France et Chantal Nadeau aux États-Unis. Nous aborderons les tensions sportives et législatives, tout ça, les communautés trans, notamment les nouvelles politiques du CIO et le bras de fer européen sur les thérapies de conversion. Le magazine Fugue vient de célébrer son 500e numéro, un jalon historique pour cette revue, pour la presse LGBTQ au Québec. Et puis, avec Philippe Aubert-Côté, c'est toujours le duel des titans avec sa chronique Queer Côté Geek. Qui, de Star Trek ou de Star Wars, l'emporte sur le plan de la représentation queer.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis Martin Chabot.
Let's make America queer always.
Make America queer always. Des nouvelles des États-Unis. Transcontinent queer. Des nouvelles d'un bout à l'autre du Canada.
Eh oui, c'est deux chroniques pour le prix d'une. On a décidé de joindre nos forces encore une fois, cette fois-ci, pour parler des actualités internationales, parce que c'est la dernière fois qu'on le fait de cette saison. On va recommencer dans la prochaine saison, évidemment. Alors, notre duo, Christophe Gérard, à Méru, dans la très grande banlieue, ou dans l'Oise, je devrais dire, en France, et Chantal Nadeau, qui nous rejoint, elle, de la grande banlieue de Chicago, aux États-Unis. Salut tous les deux!
Bonjour!
Allô, Chantal, t'es en micro. Allô, Chantal!
Bonjour, et puis je ne suis pas dans la grande banlieue, je suis en plein milieu de Chicago.
Ah, merci. T'es en plein milieu de Chicago maintenant? C'est parce que des fois, ton rejoint, t'es plus loin, ça fait qu'OK. Parce que Champagne, on ne sait plus trop, mais c'est correct. Alors, c'est notre dernier regard international de la saison, mais c'est marqué par de vives tensions sportives et législatives pour la communauté trans, tant en Europe qu'aux États-Unis. Commençons avec le dossier des Jeux olympiques 2028. Alors, ça se profile dans deux ans. On a l'impression que ça devient un nouveau champ de bataille des identités. Qu'est-ce qui change concrètement pour les athlètes trans avec la plus récente décision du comité olympique concernant les athlètes trans? Je ne sais pas lequel ou laquelle de vous deux voudrait commencer avec ce qu'on a annoncé au CIO.
Je vais peut-être commencer. En gros, en fait, il y a un changement de dogme par rapport aux personnes trans et aux femmes trans dans le sport. Le CIO a décidé de changer la donne complètement, puisque jusqu'à présent et pendant plus de 10 ans, la règle reposait sur ce qu'on appelle la physiologie modulable. En gros, les instances sportives se concentraient sur le taux de testostérone dans le sang, et l'idée était simple, si une athlète présentait un taux trop élevé, au-delà de 5 nanomoles par litre, elle devait subir un traitement médical, comme par exemple la prise d'une pilule contraceptive, pour abaisser le taux, et cela pendant plusieurs mois, de façon à pouvoir participer à des compétitions sportives. Le CIO change la donne, puisqu'il a décidé que maintenant, on allait vérifier ce qu'on appelle le gène CRY. Alors pour faire simple, ce gène, c'est un peu un interrupteur biologique qui, dans le ventre de la mère et au moment de la grossesse, va déclencher la formation des testicules et par conséquent la production de testostérone chez le fœtus. Donc, désormais, si une athlète possède ce gène ou a un vécu de puberté masculine, la catégorie féminine lui sera complètement fermée. Donc, peu importe son parcours de transition ou ses efforts pour faire baisser ses hormones, on ne juge plus la testostérone qui circule dans le sang. Mais ce qu'on va voir maintenant, c'est ce qui est inscrit dans les cellules depuis la naissance. C'est le chromosome qui devient le juge de paix en ce qui concerne la catégorie.
Mais il n'y a pas que là-dedans, je ne sais pas quel de vous deux voudra en parler, mais il n'y a pas une espèce de violation de la vie privée des gens quand on fait ce genre de test-là?
Oui, tout à fait. Et ça fait partie du débat aussi concernant le sport professionnel et le sport amateur aux États-Unis. Comme on sait maintenant, aux Jeux olympiques, on admet maintenant les athlètes professionnels. Alors, c'est vraiment aussi important de regarder ce qui se passe aussi au niveau des ligues professionnelles aux États-Unis. Mais c'est une violation de la vie privée, mais en même temps, c'est un décret fédéral ici aux États-Unis, alors ça devient aussi une autre façon. Donc ici, c'est la machine légale qui embarque, si on veut. Alors c'est comme c'est tous les sports aux États-Unis sont à la fois privés et publics. Tout ce qui concerne le public, ça devient aussi des cas qui vont se rendre jusqu'en Cour suprême pratiquement.
On n'est pas en train de dire que le CIO en fait, se plie devant la volonté de l'administration Trump au sujet de la place des femmes trans dans le sport professionnel ou dans le sport amateur.
Ben, ça fait longtemps que ce n'est pas des choses qui sont nouvelles, hein. La question le fait que Trump va être président lors des Jeux olympiques de Los Angeles, c'est sûr que je dirais que c'est réciproque, si tu comprends. L'administration Trump profite justement des Jeux olympiques de Los Angeles pour se mettre les doigts dans toute la question des gènes et des chromosomes et de la testostérone et tout ce
Je
qu'on veut.
t'interromps rapidement, on va parler de ses doigts, mais on va pas parler de grabber ou de grab.
OK. Alors voilà, bon, j'arrête.
Non, 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 c'est parce que je faisais une blague sur ce que M. Trump disait, grabber, bite, on va laisser faire.
Ah oui, c'est ça, oui, c'est ça. Bon, en tout cas.
Il se met les
Mais
mains là aussi, oui.
donc, ça revient à ça aussi, Denis Martin, c'est que c'est la question de violation du public, ça l'a toujours, c'est toujours soumis, c'est toujours en compétition avec le bien commun. Le bien commun, ici étant, comme on sait, le président Trump, dès le jour 1 de sa présidence, issu un décret. Reconnaissant seulement deux sexes biologiques. Et c'est ça qui définit toute l'intervention à la fois politique et à la fois légale aux États-Unis. Donc, il y a seulement deux sexes reconnus qui sont légaux aux États-Unis, c'est F et M.
Mais
Voilà.
en Europe, Christophe, il y a quand même des sociologues là, qui parlent sur cette nouvelle politique puis qui ne voient pas ça d'un très bon œil.
Oui, il y a notamment Madeleine Pape. Alors, elle n'est pas que sociologue, hein, c'est pas qu'une experte, puisqu'elle a été championne olympique. Elle a couru notamment contre Castor Semenya, je ne sais pas si vous la connaissez, en 2009. C'est une femme qui avait des problèmes de dérèglement hormonal, pour schématiser un peu. Et à l'époque, Madeleine Pape, ben, comme elle était déçue d'avoir perdu, elle voulait exclure complètement Semenya. Mais comme elle est devenue sociologue et qu'elle a travaillé sur les questions de genre, ben, son avis a changé. Aujourd'hui, en fait, elle dénonce une vision qui est simpliste de la biologie. Alors, Chantal parlait de la définition des genres au niveau de la loi aux États-Unis, donc hommes et femmes. Elle considère que la nature est un spectre beaucoup plus large et qu'un gène ne définit pas à lui seul la complexité d'un corps ou d'une performance.
Et pourquoi on s'obstine tant là, sur cette question du genre? Pourquoi ne pas classer les athlètes selon leur gabarit ou leur poids, comme dans d'autres disciplines, on peut le faire, hein? Dans la boxe, on y va par le gabarit. Bon, on a quand même les divisions par sexe, mais il y a quand même des catégories. Pourquoi on ne fait pas ça?
C'est une excellente question. Et puis, ben, ici, en tout cas en France, on a une personne qui a la même vision que toi. C'est un boxeur qui s'appelle Mao Villemagne. C'est un athlète de haut niveau hein, qui est en train de bousculer les certitudes du sport français pour définir qui il est. Donc, c'est un homme trans qui fait de la boxe. Il a commencé sa carrière au niveau amateur chez les femmes et il a, depuis le 10 mai 2024, il est considéré comme le premier boxeur trans autorisé à concourir dans la catégorie amateur élite chez les hommes. Et le 2 novembre pardon, 2024, il est monté sur le ring à Marseille pour un combat officiel en moins de 54 kilos contre un boxeur qui s'appelle Evan Ferrandi. Alors le résultat du match, c'est un match nul. Ça signifie beaucoup hein, puisque ça prouve que sur le ring, à poids égal et à niveau égal, la compétition est parfaitement équilibrée et cela de manière indépendante de son parcours de transition. Et alors il va dans ton sens parce que pour lui, en fait, ben, comme tu le disais, les sports de combat sont plus par catégorie de poids que de genre. Et en gros, bah, un boxeur comme lui de 54 kilos va pas se combattre un poids lourd de 90 kilos parce que c'est cette différence de poids qui va générer la différence. Et prends un autre exemple qui est celui du roller derby, qui est une autre compétition sportive dans laquelle le genre n'entre pas dans la définition. On est là aussi sur des normes différentes, donc c'est ce qui lui semble intéressant.
En même temps, Chantal, il y a des athlètes là, qui se plaignent qu'on utilise leur image pour justifier l'exclusion des femmes trans.
Oui, mais je voudrais revenir
Ah, oui.
sur un texte d'opinion assassin qui a été écrit par la star de basketball, joueuse étoile de WNBA et représentante des joueuses de cette ligue professionnelle qui dénonce la position du CEO à ce niveau-là. Et je cite, je veux la citer ici. Elle dit que en 15 ans de basketball compétitif, j'ai joué avec des personnes transgenres ou avec des variances de genre et je n'ai jamais, jamais été désavantagée. Et ce qu'elle continue aussi, c'est quelqu'un qui est très impliqué aussi dans Black Lives Matters et
Oui.
qui parle justement que tout l'attention qu'on porte à la question transgenre dans les sports, entre autres professionnels et de haut niveau de compétition, ça obscure complètement toutes les autres questions d'inégalité sociale et de salaire et d'assurance médicale, des droits justement de ces athlètes-là qui sont et les cachets qui sont beaucoup plus humble, si on dirait, si je veux être fine ici, là, beaucoup plus humble que ceux des hommes. Alors, elle se dit qu'on s'intéresse particulièrement aux transgenres, aux personnes transgenres dans les sports de compétition de femmes, et ça permet justement d'éviter toutes les autres questions qui affectent directement le jeu de ces femmes-là et les questions de santé et de sécurité. Et je veux mentionner ici en passant que le WNBA est majoritairement composé de femmes noires et de couleur. Alors, j'ai pas besoin. Dans le contexte américain, ça dit tout, hein?
Et j'aimerais peut-être poser la question. Christophe a mentionné la présence d'un homme trans dans le sport de la boxe, mais j'ai l'impression que ce débat-là est surtout vis-à-vis des femmes trans. On ne parle pas autant des hommes trans et on ne semble pas trouver qu'il y a autant de problèmes avec leur présence. Est-ce que je me trompe, Chantal?
Non, mais ici, gros scoop. Le 4 mai, ça c'est partout dans les journaux aux États-Unis, ça fait aussi la manchette au Canada et ailleurs. Je veux citer le cas de Isaac Ransom, qui est un gardien de but qui joue pour une équipe féminine qui a signé son premier contrat semi-professionnel, pardon, le Minnesota Aurora FC. Et il joue pour une ligue, cette ligue semi-professionnelle. Et ce que je veux. Deux choses que je veux mentionner ici, c'est que c'est comme un retour de l'ascenseur contre les politiques du gouvernement Trump, parce que Isaac est né femme et il est devenu transgenre, un homme transgenre. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est sur cet aspect-là que l'équipe professionnelle qui l'a engagé, qui lui a offert un contrat, a joué. C'est dans le sens qu'il respecte quand même la logique du gouvernement Trump en disant non, parce qu'il est identifié comme femme, alors il peut jouer dans une ligue professionnelle femme. Et l'autre truc qui est intéressant aussi, c'est que Ransom, c'est un gardien de but qui a gagné plein de trophées, de prix. C'est vraiment quelqu'un de haut niveau. Et ce qu'il explique aussi, c'est que il se sent beaucoup plus en sécurité de jouer avec des femmes. Il se fait moins harceler que quand il jouait avec des équipes de compétition d'hommes, surtout au niveau collégial. Il vient du milieu collégial. Alors ça aussi, c'est un élément intéressant à amener. Il est entièrement supporté par et ses coéquipières et par l'administration. Et en passant, juste une dernière petite note, Denis Martin, si tu me permets. Aurora, ou Minnesota, c'est une ville de 2000 personnes. Alors voilà. Alors, tu sais, l'idée que les grands centres, c'est là où ça se passe, hein? Hein, faut le faire. J'ai vraiment mentionné ça.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot.
Bon, on va passer maintenant vers les droits civiques. Christophe, le Parlement européen a-t-il enfin tranché sur les questions de conversion, de thérapie de conversion?
Je te dirais oui, mais avec de grosses nuances juridiques et politiques qu'il faut décrypter. En gros, en fait, le 29 avril dernier, le Parlement européen, réuni en séance plénière, a adopté ce qu'on appelle une résolution sur les droits fondamentaux. Alors, c'est important de le préciser, c'est qu'une résolution, c'est pas encore une loi directement applicable, mais c'est une avancée majeure, hein, puisque le Parlement demande officiellement à la Commission européenne de proposer une législation contraignante. L'objectif ultime et historique, c'est inscrire les thérapies de conversion dans la liste des eurocrimes au même titre que le terrorisme, par exemple, ou la traite des êtres humains. Alors, ça permettrait d'harmoniser en fait les sanctions dans toute l'Union européenne, là où aujourd'hui seul un seul pays, et j'ai envie de dire cocorico, hein, puisque c'est la France, qui a décidé d'une loi le 31 janvier 2022 et qui est le seul pays à l'heure actuelle dans l'Union européenne à protéger réellement les citoyens. Il faut savoir que si les députés européens ont bougé, c'est pas par hasard, hein, puisqu'il y a eu une pétition qui a été lancée au niveau européen. C'est une initiative citoyenne européenne qui s'est clôturée en mai 2025 avec un score massif d'environ 1 300 000 signatures, ce qui est énorme. Et ce qui est frappant, là aussi, pour une fois, je vais faire cocorico et je vais dire nous autres en France. la plus grosse partie, hein, des signataires, 670 000 personnes, ben ce sont les Français. Donc c'est un débat qui n'est plus un débat de niche, c'est une exigence démocratique claire. Même le Conseil de l'Europe, j'en avais parlé, hein, a ouvert la voie en janvier dernier avec une résolution de la sorte adoptée avec une large majorité.
Une large majorité qui exclut.
Eh ben, on s'en doute, hein, je vais en parler une fois de plus, Jordan Bardella et le Rassemblement National, mais pas que. En ce qui concerne le Rassemblement National, ils ont choisi l'abstention. C'est une politique qui est cohérente avec les décisions qu'ils prennent dans tous les votes européens concernant les droits LGBTQIA+, depuis 2021. En fait, ils restent au milieu du guet. Et donc ils veulent trahir une partie des électeurs. Je rappelle, et je l'avais déjà dit, hein, que 27% des électeurs LGBT se disent prêts à voter pour le Rassemblement national aux prochaines élections présidentielles qui auront lieu l'année prochaine, à peu près à cette période-ci. Mais ce n'est pas les seuls, hein, parce qu'on retrouve également des élus de ce qu'on appelle les Républicains chez nous. Alors c'est peut-être des noms qui sont moins parlants pour vous. Nadine Moreno, et François-Xavier Bellamy, donc qui font partie, hein, du parti de...
Le parti des abstentionnistes.
Alors, eux, ils ont voté contre, ils ont voté contre, pire. Donc, et en fait, ben, ce qu'ils voient, en fait, dans cette interdiction, ben, ce qu'ils voient, en fait, c'est une liberté, une atteinte, pardon, à la liberté religieuse ou parentale, un argument que, bien évidemment, que les associations de victimes balayent d'un revers de la main. Quand on parle de thérapie de conversion, on parle parfois de prière, mais ça va beaucoup plus loin, puisqu'il y a des thérapies de conversion qui sont pseudo-scientifiques, et il peut y avoir des violences faites.
Et je rappelle que l'ONU décrit les thérapies de conversion comme étant de la torture. Il faut que ça soit clair, selon l'ONU, c'est ça. Chantal, aux États-Unis, il y a tout un autre son cloche là-bas. Là.
Oui, ici, qu'est-ce qui se passe? C'est que, bon, si vous, pour la petite histoire, dès le départ de sa présidence, vous savez, comme vous vous rappelez, le 20 janvier 2025, il était très, très, très occupé, notre président. Alors, il a décrété qu'il voulait démanteler carrément le département d'éducation. Et, mais pour une présidence qui veut démanteler l'éducation, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérêt et d'intervention dans le milieu éducationnel. Donc, l'éducation, c'est le cheval de bataille favori de l'administration Trump. Et ce qui se passe en ce moment, c'est que ça vient tout juste de sortir, c'est que l'administration, le département de justice américain a décidé de faire enquête sur ce qu'ils appellent l'idéologie de genre dans 36 districts scolaires de l'Illinois. L'Illinois, comme vous le savez très bien, c'est l'État qui est gouverné par Pritzker, qui est aussi un sérieux candidat à la présidence. Et alors voilà, alors il y a beaucoup d'intérêt pour l'Illinois. On a été comme sous le radar depuis un an, mais là, ça revient d'une façon très forte. Alors ce qu'on veut regarder, c'est à quel point justement la propagande LGBTQ, parce que là, on sort aussi de la question de transgenre, c'est on veut voir comment les districts scolaires font la propagande
De la propagande, c'est incroyable comme mot, hein?
Non, c'est exactement ça. Alors, ça touche les écoles publiques, ça touche les collèges, et ça touche les professionnels, et ça touche aussi les universités. Et c'est partout, là. Je veux dire, c'est vraiment incroyable. Alors, ce qu'on essaie, c'est qu'ils vont dire qu'ils vont évaluer. Et ce qu'il faut comprendre aux États-Unis, c'est que même les écoles privées sont hautement financées par les fonds fédéraux. Alors, c'est une façon, encore une fois, de faire du chantage, de revoir les curriculums, d'intervenir. Donc, on prend le modèle du Texas, comme si, pour ceux qui ont suivi l'actualité au Texas, qu'il y a des universités qui interdisent maintenant les sujets, les thèses de doctorat, les maîtrises ou même les cours mentionnant LGBTQ plus. Alors, c'est ça qui va se passer, c'est qu'on va faire du ménage là-dedans. Et c'est quand même, c'est vraiment un truc très, très fort parce que qu'est-ce qui risque de se passer, c'est qu'il va y avoir des coupures de fonds, hein, du financement qui va être très, très sévère. Donc, ça va vraiment toucher et ça va réorienter aussi toute la question curriculaire dans les écoles de l'Illinois. Et ça va faire boule de neige.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot.
Bon, on se l'est promis depuis quelque temps. On va terminer nos chroniques aujourd'hui avec un petit côté d'espoir ou de la bonne nouvelle. Commençons par Chantal. Il y a une lueur d'espoir du côté des États-Unis.
Oui, bon, je reviens encore. Je pensais jamais que j'allais dire ça dans toute ma vie, mais le côté mercantile, professionnel du sport va ouvrir des portes. Et ça commence avec Isaac Cranson, le gardien de but de soccer qui a signé pour Minnesota Aurora FC.
Qui est
Et
un homme
aussi, il y a
trans, ça faut le
aussi
dire,
le
oui.
Oui, et puis il y a aussi la powerlifteuse JC Cooper qui poursuit sa fédération pour ne pas pouvoir, qui est transgenre, qui poursuit sa fédération pour ne pas pouvoir compétitionner avec les femmes. C'est assez intéressant de voir ça. Et comme j'avais prédit ça dans nos discussions précédentes, Denis Martin, que le sport professionnel allait changer peut-être le visage de la question transgenre et LGBTQ aux États-Unis.
Mais
Alors,
t'es
à
en train
suivre.
de dire que les athlètes transgenres et les athlètes queer, c'est payant?
Oui, c'est payant. Et ils ont des grandes gueules. Alors, voilà.
Ben voilà. Alors finalement, ce sera peut-être l'argent qui va changer la donne. En Europe, Christophe?
Moi, je voulais mettre en lumière une personnalité dont on parle beaucoup ici en France depuis la fin de l'année dernière et depuis janvier. Elle s'appelle Julie Tétart. C'est une basketteuse qui a un talent pur et qui fait voler tous les préjugés biologiques dans le sport. Elle joue au Monaco et elle a des résultats qui sont assez étonnants. En moyenne, alors je ne suis pas un spécialiste du basket, peut-être que ça vous parlera plus qu'à moi. En moyenne, elle fait 21 points et 20 rebonds par match, ce qui la met dans la catégorie supérieure en ce qui concerne les basketteuses. C'est une femme trans, elle le dit elle-même, elle le raconte, hein, elle paye très cher. Sur chaque match, elle entend des insultes, des sifflets, de l'agressivité, mais elle est reconnue au sein de la fédération de basket. C'est une fille qui a énormément d'ambition. Elle ne veut pas continuer à jouer juste avec Monaco, mais elle vise l'Euroleague et on lui souhaite vraiment d'y arriver parce que c'est quelqu'un qui mérite et je pense qu'on entendra encore parler de cette jeune femme qui a 33 ans, encore de longues années.
Alors, les débats, les discussions vont continuer sur l'exclusion ou l'inclusion des personnes trans dans les sports, tant amateurs que professionnels, puis ça va culminer, hein, en 2028 avec les Jeux olympiques. Les thérapies de conversion, ça aussi, il y a encore des débats qui se poursuivent. Il y a des bonnes nouvelles et on a le temps de faire un peu de prospective tous les deux. À notre retour à l'automne, qu'est-ce qu'il faudra surveiller? Chantal, je commence par toi parce qu'il y a des élections qui s'en viennent aux États-Unis.
Oui, les élections mi-mandat. Alors, un des grands débats en ce moment dans les clans démocrates qui sont tout à fait désorganisés, je le rappelle, et puis on ne voit pas de. C'est
Mais ils sont en
vraiment.
avance dans les sondages, mais dès qu'ils sont organisés comme ça, ça se peut pas, oui.
Oh, oui, non, mais ça, être en avance dans les sondages puis être aux urnes, c'est autre chose, hein. Alors, comme on sait, le taux de participation aux élections fédérales ici aux États-Unis, c'est très bas. C'est parmi les plus bas dans les pays démocratiques. Et j'utilise ça entre guillemets, le mot démocratique. Alors, les élections mi-mandat, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Je sais que le débat sur les LGBTQ et trans fait fureur chez les démocrates. C'est très divisé. Alors, c'est à suivre. Et en espérant qu'on va aussi avoir des gens qui vont être assez forts pour tenir leur bout et pas juste s'écraser devant la principauté démocrate. J'ai parlé des Clinton, Obama et compagnie. Voilà,
Ben
j'ai
voilà, on
dit
peut
ce que
peut-être
j'avais.
espérer qu'il y aura peut-être un mouvement du genre Mamdani, mais à l'échelle nationale. Mamdani, le nouveau maire de New York, mais on verra bien. Je vais lancer la balle à Christophe. Chez vous, il y a des élections aussi qui s'en viennent.
Oui, au niveau européen également, hein, notamment en Allemagne en septembre, le chancelier dont le nom m'échappe est en très mauvaise posture. Il y a le parti d'extrême droite qui est vraiment au devant de la scène et ils ont mis au point tout un programme, leur programme électoral, qui parle bien évidemment de loi anti-LGBT. Et nous en France, et ça peut être intéressant, on a les présidentielles qui arrivent. Et l'association Stop Homophobie a mis en place un rapport qui est sorti aujourd'hui, qui a été publié aujourd'hui, concernant le fait d'être LGBT, comment ça se passe pour les LGBT. Ici en France, ils se sont inspirés des mesures qui ont été prises par l'association ILGA Europe, en les mettant avec nos spécificités législatives. C'est très intéressant, je vais en parler, je pense, et ça peut être intéressant de voir de quelle manière les candidats à l'élection présidentielle ici en France vont se lancer dans cette partie qui est très attendue pour nous, mais pas que, parce que je pense que ça peut avoir un impact très très fort.
Bien, merci beaucoup, Christophe Gérard, à Méru, dans la Grande Oise ou dans, banlieue, oh, dans la région
Tu
d'Oise.
peux dire l'Oise ou alors tu peux dire également les Hauts-de-France, puisque j'appartiens à la région des
Des
Hauts-de-France.
Hauts-de-France. Et puis, en plein cœur de Chicago, en Illinois, Chantal Nadeau, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Et puis, bien, on espère pouvoir se revoir donc et se reparler dans la prochaine saison. Merci à tous les deux. Avec
Merci,
grand
Denis
plaisir. Au
Martin.
revoir.
Bye-bye, Christophe.
Au revoir, Chantal.
Pour joindre l'équipe de l'heure où l'arc-en-ciel se lève, écrivez-nous à heurciel@gmail.com, heurciel en un seul mot, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook et Instagram, @dmchabotauteur et sur LinkedIn, Denis trait d'union, Martin trait d'union, Chabot.
Après la pause, on parle du 500e numéro de Fugue et Queer Côté Geek.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Entrevue.
Le magazine Fugue vient de publier son 500e numéro. 500, c'est pas rien. Pour en parler, je reçois Yves Lafontaine, rédacteur en chef et directeur du magazine, poste qu'il occupe depuis plus de 30 ans. Wow, salut Yves.
Bonjour Denis Martin.
Ça prend de la patience. 30 ans.
32 ans pour
32
être précis.
Ans pour être précis. Fugue est né en 1984, en pleine crise du VIH. Quel rôle le magazine a-t-il joué à ce moment-là?
Bien, au départ, il faut comprendre que le magazine était d'abord et avant tout un guide de sortie.
C'est vrai. À l'époque, hein, on avait besoin de ça. Il n'y avait pas d'Internet. Hein?
Mais comme c'était un magazine qui était populaire, qui avait un large audience entre 18 et 35 ans, il y a beaucoup de professionnels, il y a des gens de la santé qui se sont intéressés à y avoir une présence dans le magazine. Donc, sans le vouloir, le magazine a accueilli des gens qui étaient plus impliqués. Mais c'était pas le mandat
d'origine. Au départ,
c'était
pas un média d'information.
Non, effectivement,
ça l'est devenu.
C'était un média d'information par rapport à toute l'actualité de sortie.
Oui.
Puis, mais rapidement, et depuis ce temps-là, le magazine a fait plus que juste informer et divertir. Il s'est aussi engagé, il a donné la parole à beaucoup de militants et de personnes qui étaient engagées dans le communautaire.
C'est quasiment devenu un point de ralliement, le magazine. À peu près tout le monde est là-dedans.
Mais je pense que ce qui fait d'ailleurs la réussite et la longévité du magazine, c'est d'avoir et d'être toujours resté très près de la communauté LGBTQ+.
Comment tu définirais... Toi, tu es arrivé un peu plus tard dans le processus, là, mais comment qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui a fait que tu as pris ça en main?
Bien, l'idée, c'est que le magazine était en croissance. Moi, j'étais à ce moment, en 1994, plutôt en 93, j'étais à la programmation du Festival Imagination.
C'est vrai.
C'était un programme d'emploi, parce que mon président d'emploi, je l'avais perdu, puis j'étais comme dans un flottement. Le festival me connaissait, donc pendant la durée du festival, j'ai rencontré le directeur du magazine, qui était le propriétaire à l'époque, Martin Hamel, qui m'avait dit tout bonnement, mais comme beaucoup de personnes te disent, j'ai besoin de quelqu'un, puis tu dis, il me rappellera pas. Puis après les fêtes, il me rappelle et il me dit, t'es-tu toujours intéressé? J'ai dit, oui. Ben, il dit, viens me rencontrer. On se rencontre, puis à la fin de l'entrevue, il dit, ben, tu commences quand? Donc, ça s'est fait.
Ça a commencé comme journaliste.
C'est plutôt, il faut comprendre qu'à l'époque, ce que je pourrais dire, c'est que les rôles n'étaient pas aussi distincts que maintenant. Tout le monde faisait un peu de tout.
Ouais.
Et quand je suis arrivé, moi qui avais travaillé aussi pour un autre magazine, 24 Images, magazine de cinéma, où tout était à l'opposé, hyper. Je dirais, les tâches étaient hyper définies.
Mm-hmm.
J'ai comme lentement intégré l'idée que ça serait peut-être plus avantageux pour le fonctionnement du magazine que nos tâches soient plus distinctes.
Ouais.
Ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais quand je suis arrivé, moi, je suis arrivé avec des idées un peu neuves qui correspondaient aux résultats, curieusement, d'un sondage que Martin avait fait faire pour une étude de profil de lecteur. Il avait commandé une agence externe. Puis la plupart des choses que je recommandais était dans ce rapport-là. Donc, il m'a un peu donné carte blanche parce qu'il ne savait pas trop... Tu sais, le magazine fonctionnait très bien au niveau financier. Donc, pour lui, il ne voulait pas faire trop de changements. Et les changements qu'on a faits, on les a faits graduellement. Puis moi, l'idée, c'était vraiment de rapprocher le côté rédactionnel du communautaire, ce qui n'était pas là beaucoup avant. Il y avait une présence du communautaire, mais plus comme un soutien du magazine à des activités communautaires avec des espaces publicitaire gratuit, puis des communiqués.
Ouais.
Mais rapidement, j'ai engagé des gens qui ont été à la pige pour rédiger des articles sur... Tu sais, le mois où je suis arrivé, c'est simple, c'était la descente aux catacombes.
Ah ouais.
Donc, le premier mois où j'arrive, j'ai dit, bien, il faut qu'on fasse quelque chose sur ça. Puis, on met qui sur ça? Bien, on va mettre telle personne. J'ai dit, non, ça, c'est pas la... Il faut vraiment prendre quelqu'un qui va avoir une approche... C'est journalistique, sérieuse sur un sujet comme ça, pas juste l'aborder de manière un peu humoristique. C'est quelque chose qui va toucher la vie de personnes. Donc, ce numéro-là, on a eu comme un très, très bon feedback par rapport à l'article parce que c'était comme une entrevue avec un avocat qui expliquait comment les personnes qui étaient accusées pouvaient se défendre. Il y a eu un début de comité, justement, de défense suite à cet article-là. Ouais. Donc,
c'est ça qu'on voit, finalement, que le magazine Fugue prenait de plus en plus un rôle journalistique puis un rôle aussi de journalisme de service avec cette entrevue-là.
Ouais.
T'es devenu propriétaire quand de Fugue?
Bien, en la pandémie. Ben, ouais. Je veux dire, j'étais un actionnaire minoritaire. C'était une manière, depuis le début des années 2000, mais la pandémie, l'actionnaire principal décide de prendre sa retraite et après négociation, moi puis deux de mes collègues, on a décidé de faire l'achat du magazine pour le continuer, mais avec une formule un peu différente dans la mesure où le modèle d'affaires, il fonctionnait plus. Là, tu sais, on avait un bureau, on avait 13 employés à temps plein. C'était plus viable là, économiquement. Donc, on a réduit l'équipe de permanence et on a coupé le bureau, ce qui nous a permis de poursuivre à faire un magazine de qualité sans que ça paraisse vraiment pour...
Il y a une espèce de mouvement aussi en ligne parce qu'on retrouve de plus en plus d'articles. Mais, et de...
En même temps, il faut comprendre que le magazine est en ligne depuis 1998. Ouais. Donc, c'est pas récent. C'est juste que à chaque 5-6 ans, on refait le site Internet. Il devient plus... actuelles, mais notre présence en ligne, on était parmi les premiers magazines qui avaient une présence en ligne à la fin des années 90.
La mission de Fugue maintenant, comment tu la définis?
Ben, l'idée, c'est qu'on n'a jamais été un magazine militant comme tel, pas comme le Bordache ou comme la Revue 13 l'a été aussi pour les lesbiennes. Je dirais que nous, c'est de trouver un équilibre entre l'information le conseil d'activité, les dossiers de qui sont plus de fond, des reportages, des entrevues. Donc, c'est de trouver un équilibre entre tout ça. Nous, on ne s'adresse pas à une clientèle très ciblée de, disons, de 20 à 25 ans ou de 20 à 30 ans. Notre lectorat est vraiment de 18 à 60 ans. Là. Tu sais, la majorité de nos lecteurs, là, c'est évident qu'on a un peu d'adolescents, mais qui nous voient plus sur le site web.
Oui.
Et une clientèle plus âgée, mais c'est quand même assez minoritaire dans la mesure où il y a beaucoup de personnes, passé un certain âge, qui se retirent un peu de la vie publique, là, t'sais, qui sortent moins. Le magazine est quand même associé encore à quoi faire et les sorties.
C'est vrai qu'il y a quand même l'agenda de ce qui se passait là. Yves, quand on regarde le lectorat de Fugue et tout ça, est-ce que de plus en plus, les gens se retirent du papier et vont plus lire en ligne? Est-ce qu'il y a encore autant de magazines qui est imprimé?
Bien, l'idée, c'est qu'il y a eu des variations d'impression. Là, on est rendu à une variation entre 24 et 27 000 exemplaires
quand
par
même.
Mois.
Ouais.
On a déjà eu, dans le passé, 55 000 exemplaires par mois. Mais il y avait plus d'annonceurs et l'Internet n'était pas aussi important. Le magazine, en format magazine, il est aussi disponible de manière numérique, non seulement sur Fugue, mais sur 4 autres plateformes numériques de lecture que les gens ne consultaient pas avant parce qu'ils n'existaient pas, comme Biblimag.
Ouais.
Nous, il y a quelques années, Biblimag, quand ils ont lancé ça, c'est le site des bibliothèques francophones du Canada. Et tous les magazines qui sont disponibles en bibliothèque sont disponibles aussi.
Oui.
Exactement. Et nous, maintenant, on a plusieurs dizaines de milliers de lecteurs juste sur cette plateforme-là qu'on ne rejoignait pas avant.
Puis, de toute façon, on peut aller, hein, tous les jours, le site web est remis à jour, on peut avoir les nouvelles du jour. Il y a vraiment eu une évolution.
Mais je dirais que le lectorat magazine reste encore pour beaucoup de personnes la manière de lire le magazine. Tu sais, je veux dire, en version imprimée. Parce que, de toute façon, on ne lit pas de la même manière l'information ou on ne se divertit pas de la même manière en lisant un magazine que en lisant des nouvelles sur Internet. Souvent, on va aller à tel onglet, puis on va même l'avoir en mémoire, on ne passera plus par la page de sommaire, alors que c'est difficile de ne pas passer par les premières pages d'un magazine.
En fait, c'est vrai.
Exactement.
Les temps sont durs pour tous les médias d'information imprimés. Fugue a quand même, comme tu as dit, a connu une métamorphose pendant la pandémie. Il n'y a plus de bureau, on travaille de chez soi, on a réduit les équipes. C'est quoi le plus grand défi qui reste pour que Fugue survive encore?
L'idée c'est qu'il faut comprendre qu'un magazine comme Fugue, avant, dans le passé, c'était essentiellement des revenus qui venaient de la publicité. Là, ça reste encore, ça demeure une partie importante des revenus, mais on a des abonnements de soutien qui était presque inexistant avant, pas inexistant, mais qui comptait pas beaucoup parce qu'il ne couvrait même pas les frais de livraison. Ouais. Alors que maintenant, les abonnements de soutien, c'est non seulement ça couvre les frais de livraison, mais les gens, c'est comme si c'était un engagement là, communautaire. Là. On est prêt à payer un peu pour le service qui est rendu.
Donc, la version papier va exister encore pour un bout?
On l'espère. T'sais, tant qu'il va avoir des lecteurs et qu'il va avoir suffisamment d'annonceurs pour le faire, oui, effectivement. Ça ne fait pas partie des plans de fermer le magazine pour être uniquement sur Internet. D'autant plus que la publicité sur Internet, on le sait, Elle est concentrée.
Elle est avalée par les géants du web qui vous boycottent. Hein, vous n'avez toujours pas le.
Il faut comprendre que c'est Meta. Hein, Meta. La problématique. Google a eu une entente avec le gouvernement du Canadien. Il verse aux médias canadiens 100 millions de dollars par année.
Ils en reçoivent un petit peu de ça?
Oui.
Ah, ben c'est bon. Fait qu'il y a juste Meta qui est encore le mauvais garçon dans tout ça.
Effectivement.
Juste pour terminer avec... on est quand même dans un autre monde. Hein. Il semble qu'on est dans l'ère de la post-vérité, de la montée des extrêmes, la montée de la haine vis-à-vis de nos communautés. Comment vous gérez ça chez Fugue?
Nous, on a comme une tolérance zéro là, des commentaires négatifs, même si ça nous enlève peut-être un certain nombre de personnes qui... On bloque tout simplement... les gens sur les réseaux sociaux, quand il y a un manque de respect, autant des gens qui ont écrit les articles que des personnes qui sont... tu peux avoir des opinions contraires, mais il y a un niveau...
La haine n'a pas sa place.
Exactement.
Mais je veux dire aussi dans le niveau, au niveau de la couverture, parce que ça change aussi beaucoup les nouvelles. Hein. On vit beaucoup dans ce monde-là.
On est obligé de compenser un peu par rapport aux nouvelles fausses. Là. C'est évident.
C'est beaucoup de travail à faire. Hey, Yves Lafontaine, merci beaucoup. C'est un plaisir de te recevoir.
Merci.
Yves Lafontaine, rédacteur en chef et directeur de Fugue Magazine.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Queer Côté Geek avec Philippe Aubert Côté.
Ah, Philippe Aubert, on va parler de Star Trek ou Star Wars.
Oui, un débat très dangereux.
Alors, on va vivre dangereusement. Pourquoi?
Bien, parce que c'est une grosse problématique chez les geeks. Hein? Les deux fandoms rivalisent depuis longtemps pour savoir laquelle des deux franchises est la meilleure. Hein? Ah. C'est tellement important même que, je te préviens, si tu dates un geek, ça se peut que tu te fasses demander est-ce que t'es Star Wars ou Star Trek, là? Aussi bien que si tu vas te faire demander si t'aimes le sexe ou le chocolat ou si t'es top ou bottom.
Star Trek ou Star Wars, top ou bottom? Alors, t'es quoi? T'as Star Trek ou Star Wars?
Moi, je suis plus Indiana Jones.
Ah bon?
Ouais, parce qu'il y a un fouet. Tu sais, Indiana Jones, il y a un fouet, puis avec son fouet...
OK. On va aller explorer une autre frontière, okay. Ça te dérange pas, on va tomber dans le côté obscur de Philippe Aubert Côté. Donc, tu nous proposes aujourd'hui une confrontation entre Star Wars et Star Trek, mais sous l'angle queer.
Oui, je trouvais ça intéressant de parler de ces deux franchises-là, parce qu'elles sont majeures, qu'on aime la science-fiction ou pas, on les connaît, c'est passé dans la culture générale, mais moi, je me demandais quelle était leur relation par rapport... au fandom queer et à la question queer et aux problématiques queer.
Donc, tu as mis ton chapeau d'Indiana Jones. Est-ce que tu as porté ton fouet?
On part jamais à l'aventure sans son fouet. Hein? Bon. Donc, je suis parti tout bien équipé. Puis pour répondre à ma question, je suis allé explorer d'abord comment et pourquoi les deux franchises sont nées. Donc, je vais vous faire un petit historique de la genèse de Star Wars et Star Trek, mais c'est très important pour comprendre comment que la relation avec le côté queer.
Commençons avec Star Trek, donc.
Donc, petit rappel pour ceux qui n'ont pas suivi les 50 et 60 dernières années. Donc, qu'est-ce que c'est Star Trek? C'est une franchise de science-fiction déclinée en séries télévisées, films, romans et comiques qui nous présente un futur lointain où humains et extraterrestres forment une sorte de confédération interplanétaire au sein de laquelle ils vont vivre diverses aventures. Hein. Puis le concept de base, c'est que tu as plusieurs ethnies ou espèces qui doivent donc collaborer pour résoudre des problèmes. Et comment... c'est apparu et quand c'est apparu, Star Trek, c'est d'abord apparu sous la forme d'une première série télévisée diffusée de 1966 à 1969. Mmh. Et là, qui est le créateur de Star Trek? Ça vaut la peine de s'intéresser au monsieur. C'est un certain Gene Roddenberry, de son vrai nom Eugène Wesley Roddenberry, 1921-1991. C'est un policier puis un pilote d'avion, un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale qui a survécu à plusieurs crashs, mais qui s'intéressait à l'écriture puis à l'art. Après la Deuxième Guerre mondiale, il est allé à Los Angeles, il était policier et à temps partiel, il était scénariste sur des séries qui racontaient des histoires de western, des histoires policières ou armées, tout ça. Mais là, il se demandait comment je peux aborder ces termes-là d'une façon originale. Et son apport, ça a été d'apporter ça dans l'espace. Parce que c'était à l'époque de la conquête spatiale aussi, c'est la course à la Lune. Hein? Il s'est dit, bien, je vais aborder mes thèmes dans l'espace. Et c'est là qu'il a créé Star Trek. Et c'était révolutionnaire à l'époque, Denis Martin, parce que là, tu avais un vaisseau avec un équipage qui était multi-ethnique, avec des multiethniques et des personnages multiethniques, noirs, asiatiques, russes, etc., qui doivent s'associer des fois avec d'autres espèces pour résoudre des problèmes. C'était donc un écho des problématiques sociales de l'époque. C'est la lutte pour les droits civiques, tout ça. Hein? Même ça, et ça a vraiment brassé la cabane sur plusieurs plans. Whoopi Goldberg l'a toujours dit que c'est quand elle avait vu la lieutenant Uhura dans Star Trek, jouée par Michelle Nichols, qu'elle avait compris « Hein, les personnes noires peuvent être autre chose que des ménagères ou des secrétaires à la télévision. » Là, on lui montrait un personnage positif, donc ça a brassé la cabane sur plusieurs plans.
La première série, donc, s'arrête en 69. On est 3 semaines avant les émeutes de Stonewall.
Exact. Détail à retenir.
Oui.
La première série s'interrompt en 1969, 3 semaines avant les émeutes de Stonewall. Ça va rester en suspens dans les années 70. Gene Roddenberry va développer du matériau pour faire d'autres séries, mais ça va plutôt servir à alimenter des films dans les années 80, parce qu'entre-temps, Star Wars va sortir, puis là, ça va montrer à la Paramount que, oh, OK, ça peut être intéressant peut-être d'avoir Star Trek au grand écran. Donc là, ça va dériver sous forme de film. Puis il va falloir attendre la fin des années 80 pour que Roddenberry lance une nouvelle série Star Trek qui s'appelle Next Generation, dominée par Patrick Stewart dans le rôle principal. Lui va décéder en 91 et il va y avoir d'autres séries télévisées qui vont survenir après ça, mais aussi beaucoup de déclinaisons en romans, comiques, dessins animés, etc.
Juste préciser qu'on parle de Roddenberry qui est décédé en 91, pas Patrick Stewart qui est encore là, puis on le voit dans d'autres séries.
Et oui.
Donc, alors, en comparaison, la naissance de Star Wars a été beaucoup plus compliquée.
Beaucoup plus compliquée, et c'est un projet tout à fait différent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Star Trek, dès le départ, c'était un prisme pour montrer la société. Ça avait des visées sociales avant tout, alors que Star Wars, c'est un projet qui est avant tout artistique et technique. Il fallait inventer des effets spéciaux pour ça. Et le but, c'était de proposer une nouvelle mythologie, un nouvel imaginaire aux spectateurs. Qui a créé Star Wars? C'est George Lucas, donc qui est né en 1944, 22 ans plus jeune que Roddenberry, mais complètement une autre génération. C'est un ado rebelle, il veut faire de la course automobile, il se pète la fraise à un moment donné, il passe à deux doigts de mourir, puis il se dit « je vais repenser mes choix de vie ». Il rentre à l'université en cinéma où il rencontre un certain Francis Ford Coppola, qui va réaliser Le Parrain plus tard de même. Ils s'associent, ils produisent des films, tout ça. Ils font des projets, puis Lucas se dit « mais moi, j'aimerais apporter une nouvelle mythologie aux gens ». Lui, il est fasciné par les vieux feuilletons de science-fiction de son époque, le cinéma japonais, mais aussi toutes sortes de théories universitaires sur la mythologie. Puis il va offrir un grand imaginaire positif aux gens. Et c'est comme ça qu'il va imaginer Star Trek. Des combats spatiaux, c'est épique, des combats de samouraïs dans l'espace avec des sabres, tout ça. Là. Hey, c'est quelque chose, là, c'est du jamais vu. Tellement jamais vu que personne ne comprend son ambition. Il propose le scénario au studio. Les studios ne veulent rien savoir. Francis Ford Coppola dit « c'est intéressant, mais ouais, il fait des suggestions, mais bon ». Il y a finalement la 20th Century Fox, excusez-moi l'anglais, qui accepte de produire le film avec un budget modeste de 11 millions. À l'époque, c'est très petit, là, c'est moyen. C'est un tournage extrêmement difficile. Les acteurs ne comprennent pas des fois le film. Il faut inventer une compagnie d'effets spéciaux pour tout faire ça. Les gens ne voient pas le produit fini. Puis, mon Dieu, on pense que ça va être un flop, tu sais. Mais quand ça sort, c'est la révolution. 800 millions de dollars de recettes à travers le monde pour un budget de 11 millions de dollars de 1977.
Ouais.
Donc, c'est des fortunes aujourd'hui. Là, on a compris la vision de Star Wars, puis ça a pogné. Mais Star Wars, George Lucas a tellement été traumatisé par la réalisation du premier film qu'il va déléguer la réalisation de deux autres films à d'autres personnes, puis il va superviser ça un peu de loin. T'sais. Donc, il y a un deuxième Star Wars qui sort au début des années 80, puis après ça, un troisième film. Après ça, il pense en avoir fini avec Star Wars pendant longtemps. Il veut rien savoir de la réalisation. Il va collaborer avec Spielberg pour Indiana Jones puis pour d'autres projets comme ça. Mais entre-temps, l'univers de Star Wars se développe. Il y a des romans qui s'écrivent, il y a des dessins animés, des bandes dessinées qui apparaissent. Et là, ça lui fait dire, ben, peut-être que je pourrais revenir faire d'autres films de Star Wars. Donc, c'est pour ça qu'en 97 jusqu'à 2005, il va sortir 3 autres films qui vont constituer une prélogie, une histoire racontée avant la trilogie originale de Star Wars. Et il va y avoir après ça une trilogie conclusive de 2015 à 2019.
Bon, là, on vient de faire le tour de ça, mais qu'en est-il du côté queer de ces deux franchises?
Rappelez-vous le contexte dans lequel les deux œuvres ont été conçues. Star Trek, premièrement, s'est fait à la télévision et on veut parler de diversité et de problèmes sociaux. Donc, la diversité ethnique était très présente au cœur du concept, ainsi que les problématiques politiques de l'époque. Côté queer, la première série n'aborde pas l'homosexualité ou la diversité sexuelle. Mais personne n'est étonné. Même les militants queer le disent, c'est pas surprenant, parce que rappelez-vous ce qu'on a dit plus tôt, la première série s'est interrompue 3 semaines avant les émeutes de Stonewall. C'était donc avant les grands débats publics sur les droits des LGBT. C'était pas sur l'écran radar de Ron DeBerry, donc c'est pas étonnant qu'on l'aborde pas dans la série.
Okay.
Dans les films des années 80, on l'abordait pas vraiment non plus. C'était pas sur la carte non plus. Mais en 87, quand Ron DeBerry a commencé à penser à une nouvelle série, là, il y a un groupe qui s'appelle le International Gay Lactic Network. Gay Lactique, pas
oui,
galactique.
G-A-Y,
oui. C'était des fans queer de SF qui militaient pour la représentation des queers en science-fiction. Eux, ils l'ont interpellé dans une convention pour dire « Est-ce qu'il va y avoir des personnages LGBT dans Star Trek? » Et le gars était d'accord. Le monsieur l'a dit lui-même, Roddenberry, dit « Oui, je trouve que c'est important de parler des personnes LGBT. » Lui-même, à travers son travail sur Star Trek, avait pris conscience de ses propres préjugés ou attitudes passives envers l'homophobie. Puis il s'est dit « J'ai pas été correct à une époque par mon inertie. Il faut qu'on fasse de quoi? » Il a préparé des scénarios pour aborder le problématique LGBT. Il voulait qu'on en parle dans la série et malheureusement, il est mort en 1991. Donc, certains scénarios n'ont pas pu être mis en branle tout de suite. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Il y a une relation amour, disons, amour-haine entre les fans queer de Star Trek puis Star Trek, parce que il y a des personnages, des problématiques queer qui sont apparus, mais ça a été critiqué. Un premier couple gay a été montré, mais un des deux meurt. T'sais. On a abordé la problématique du VIH, mais par une allégorie très compliquée là, de parasite mental, parce qu'on a fait une fusion mentale télépathique avec quelqu'un qu'on n'aurait pas dû. T'sais. C'était abordé par l'allégorie, tout ça, et les fans n'étaient pas très contents au début. Eux, ils voulaient qu'on montre les personnages LGBT bien intégrés dans le futur utopique qu'est Star Trek. C'est ce qu'ils voulaient. Montrer les personnes LGBT sont acceptées et on est heureux. Ils voulaient qu'on montre finalement l'idéal vers lequel la société doit tendre. C'est ça, Star Trek, c'est une utopie. Mais les producteurs disaient, bien, nous, on va aborder des problématiques modernes. Il faut qu'on montre les troubles que vivent la communauté LGBT, dont l'homophobie et autres. Puis là, bien, c'est pour ça qu'on parlait toujours des LGBT sous l'angle des problèmes. T'sais. Puis les fans aimaient moins ça. T'sais. Puis il y a des producteurs qui disaient, mais pourquoi parler des personnes LGBT dans le futur de Star Trek si elles sont acceptées, ils n'ont pas de raison d'être visibles? Ça, c'est un argument homophobe qu'on entend des fois encore aujourd'hui. Hein?
Oui, tout à fait.
Tout ça. Donc, c'est surtout dans l'univers étendu puis dans les séries que de plus en plus de personnages queer sont apparus. C'est beaucoup mieux aujourd'hui. Côté film, ça fait dur encore. Dans le dernier film de Star Trek fait en 2016, on montre Monsieur Sulu avec son conjoint puis une fille adoptive. T'sais, mais c'est timide, il a fallu galérer pour arriver à ça. Puis la dernière série Star Trek, qui s'appelait Starfleet Academy, nous m'ont présenté un personnage de Klingon gay, qui est très joli, soit dit en passant, mais la série vient d'être interrompue après 2 saisons parce que des fans trouvaient que c'était trop woke.
Bon, alors le phénomène, un phénomène dont a aussi été victime la franchise Star Wars.
Exactement. La relation de Star Wars avec les queers est étonnamment semblable à celle de Star Trek sur plusieurs plans. Star Wars, on se rappelle, le but premier, c'était de proposer une nouvelle mythologie. C'était de réinventer le cinéma. Hein. On voulait pas parler de problématiques sociales. George Lucas n'était pas préoccupé par ça. Donc, c'est pour ça que la première trilogie de Star Trek, ben, ça parle pas vraiment de personnes queer. Hein. Puis même côté femmes, ça faisait dur, les versions originales. Il n'y a pas beaucoup de femmes en dehors de la princesse Leia, tu sais. Quand George Lucas a abordé la nouvelle trilogie, il a voulu introduire un personnage queer, puis il voulait que ce soit l'extraterrestre qui s'appelle Jar Jar Binks, qui apparaissait dans la trilogie, qui soit un personnage gay. Le problème, c'est qu'il a renoncé à l'idée parce que Jar Jar Binks est un personnage comique et stupide qui était en plus détesté par les fans après. Et il s'était dit avant, je suis mieux de ne pas le mettre gay. Et il a bien choisi, tu sais. Donc, tout ça.
Ça aurait pu y amener, oui, des ennuis.
Ça, des gros ennuis, tu sais. Puis, c'est surtout dans l'univers étendu de Star Trek, dans les films, dans les romans, les séries télévisées, animées et autres, qu'on a vu beaucoup de personnages queer apparaître. Il y a des recensions qui existent sur Internet. Donc, ça s'est beaucoup amélioré. Mais côté cinéma, ça fait encore dur.
Ouais.
Dans la dernière trilogie qui a été tournée de 2015 à 2019, il y avait 2 personnages, un joué par l'acteur John Boyega, puis l'autre Oscar Isaac, qu'il y avait beaucoup de spéculations sur le fait qu'il y avait peut-être une relation homosexuelle. Les deux comédiens l'ont même joué avec cette optique-là en tête, en disant qu'elle allait avoir un grand coming out dans le dernier film. Puis on l'a annoncé, il va y avoir un moment queer dans le dernier Star Wars. Finalement, ça a juste été un petit baiser lesbien très discret à l'arrière-plan.
Bon, ben, remporte la palme côté queer?
Les deux franchises sont vraiment similaires. Les queers sont surtout apparus dans les univers étendus, mais dans les films, ça, c'est plutôt difficile encore. Hein? La faute en incombe aux producteurs et peut-être à certains fans qui, des fois, sont homophobes. Donc, il y a quand même certaines similitudes entre les deux.
Bon, OK. Finalement, là, qui remporte la palme?
Écoute, Denis Martin, s'il y a une chose que j'ai appris avec le temps, c'est que si on tient à la vie, on ne tranche jamais une confrontation entre Star Trek et Star Wars.
Bon. Alors, là-dessus, moi, je vais te souhaiter, et je vais faire le signe de la main, Hein? On dit longue vie et prospérité.
Eh bien, que la force soit avec toi.
Ah, le 4 mai. Merci beaucoup d'avoir été avec nous cette saison. Merci puis on beaucoup. Espère te revoir la prochaine.
Merci, à l'année prochaine.
Pour joindre l'équipe de l'heure où l'arc-en-ciel se lève, écrivez-nous à heureciel@gmail.com, heureciel en un seul mot, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook et Instagram, @dmchabotauteur et sur LinkedIn, Denis trait d'union, Martin trait d'union, Chabot.
Bon, est-ce qu'on va voir un fouette là-dedans?
Bien, toujours.
Ah oui, il est où? Tu ne l'as pas apporté finalement, hein?
Hey, dans mon sac à dos. C'est un fouet pliable laser.
Laser. Oh là là. Bon, on n'aura jamais cette réponse-là entre Star Trek et Star Wars. Eh bien, c'est la fin de cet épisode de l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Merci à tous nos invités, hein, Chantal Nadeau, Christophe Gérard pour la chronique internationale. Merci aussi à Yves Lafontaine qui vient nous parler de ce 500e numéro de Fugue. C'est pas rien quand même. Et merci aussi à Philippe Aubert-Côté pour la chronique Queer Côté Geek. J'adore ce nom de chronique. Je suis très content de cette découverte. Merci à l'équipe de recherche Godéric Trob. Merci aussi à Mathieu Tessier pour la mise en onde. Merci à toute l'équipe de Canal M. Je m'appelle Denis Martin Chabot. Je réalise et j'anime cette émission. À la semaine prochaine.